VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec et John Lyndon en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mardi 5 avril 2016. Au sommaire ce soir...
Brazzaville, important dispositif militaire dans la capitale au lendemain des combats. C'est dans ce contexte que les résultats de la présidentielle ont été validés.
Officiellement, on parle de 3 policiers qui ont été tués et 2 assaillants. Les commissariats des polices, la plupart ont été incendiés et puis les 2 sièges des arrondissements de Brazzaville.
Au Tchad, la marche pacifique de la société civile a été violemment réprimée par la police.
En République démocratique du Congo, les habitants de Lubumbashi s'inquiètent de l'arrivée de militaires et de chars de combat dans leur ville.
Je les ai vus moi-même de mes propres yeux au nuage de chars de combat avec des militaires.
Mali, le gouvernement réinstaure l'état d'urgence pour 10 jours.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Justice, non-lieu de la CPI pour le Kenyan William Ruto, une déception pour les victimes des violences post-électorales meurtrières de 2007-2008 au Kenya, ne cachaient pas leur amertume mardi à l'annonce de la fin des poursuites par la Cour pénale internationale contre le vice-président kenyan William Ruto, une décision synonyme de victoire pour ses partisans. La décision a été rendue et c'est une décision que nous devons respecter. Bien entendu, il ne fait aucun doute que cette décision va constituer une déception pour les victimes, a déclaré l'avocat des victimes devant la CPI, Wilfred Nderitu, lors d'une conférence de presse à Nairobi. Il a appelé la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, à faire appel. William Ruto, 49 ans, était poursuivi pour des meurtres, persécutions et déportations commises durant les violences qui avaient suivi la réélection contestée du président Mwai Kibaki face à Raila Odinga qu'il soutenait en décembre 2007, faisant plus de 1300 morts et 600 000 déplacés selon l'accusation.
La Cour constitutionnelle de la République du Congo a validé la victoire contestée par l'opposition du chef de l'État sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars. Le climat reste toutefois tendu. Les quartiers sud de Brazzaville étaient quadrillés ce matin par un important dispositif militaire au lendemain d'échanges de tirs ayant contraint des milliers d'habitants apeurés à fuir vers le centre de la ville. Les précisions de Tatiana Mosso.
Après 32 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour avec 60,19% des suffrages exprimés. Selon Auguste Iloki, président de la Cour, le taux de participation a été de 68,92%. Des échanges de feu ont encore été entendus lundi en fin d'après-midi, mais la nuit a été calme. Un premier bilan d'une source policière fait état de 3 policiers et 2 assaillants tués. Les bérets noirs de l'armée ont pris la relève des éléments de la garde républicaine sur les principaux points stratégiques de la ville. L'armée a mis en place de nombreux barrages et des soldats fouillaient les rares véhicules dans la circulation. Des milliers d'habitants du sud de Brazzaville ont fui vers le centre-ville. Le gouvernement congolais accuse les miliciens Ninja Nsilulu d'avoir mené cette attaque contre des bâtiments publics. Les autorités ont ouvert une enquête pour voir s'il existe un lien entre ces attaques et les candidats de l'opposition qui avaient appelé à la désobéissance civile pour contester la réélection du président Denis Sassou Nguesso.
À noter que le dirigeant d'opposition Guy Brice-Parfait Kolila a déclaré à l'AFP qu'il jugeait bizarre la version des autorités de Brazzaville sur ces violences. Il demande une enquête en toute impartialité.
Au Tchad, la marche pacifique N'Djamena pour une alternance démocratique a été réprimée par la police. La manifestation avait été interdite. Sur place, notre envoyé spécial Bagassi Koura.
La marche programmée ce mardi a été empêchée par les forces de l'ordre. Tôt le matin, elles ont occupé les principaux lieux de rassemblement des manifestants où plusieurs dizaines d'hommes armés et de pick-up de la police anti-émeute et de la gendarmerie étaient visibles toute la matinée. Vers 8 heures, certains manifestants se sont repliés à la Bourse du Travail de N'Djamena où ils ont été accueillis par des tirs de gaz lacrymogène. La société civile parle d'un militant blessé. Lundi, le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Béchir, avait réaffirmé à VOA Afrique que la marche était interdite. C'est une période spéciale. Seuls les candidats peuvent tenir des manifestations, a-t-il dit, faisant allusion à la campagne électorale. La société civile donne rendez-vous à ses militants jeudi prochain lors de la comparution devant le tribunal d'instance de N'Djamena de 4 des 5 militants arrêtés. N'Djamena, Bagassi Koura pour VOA Afrique.
Le Mali, de nouveau en état d'urgence. La mesure décrétée pour 10 jours par le gouvernement est déjà en vigueur sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement entend également faire une demande auprès de l'Assemblée nationale afin que la mesure soit prorogée pour une durée de 3 mois. On fait le point sur place avec Kassim Traoré.
C'est dans le cadre d'une démarche de prévention et d'anticipation sur les menaces réelles à la sécurité des personnes et de leurs biens que l'état d'urgence a été prorogé pour une période de 10 jours. Malheureusement, elle fait suite à un autre qui a duré 3 mois, soit du 21 décembre 2015 au 31 mars 2016. Selon le gouvernement, ce recours à l'état d'urgence a permis aux autorités compétentes de mieux circonscrire et de combattre les projets d'atteinte à la sécurité des personnes et de leurs bien, ainsi que des tentatives de troubles à la quiétude des populations à travers notamment des patrouilles, des perquisitions, les saisies d'armes, des véhicules et des interventions sur les scènes d'attaques terroristes ou des crimes. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les Maliens ne se sentent plus en sécurité car les attaques se multiplient de jour en jour. Malgré l'état d'urgence, il y a eu des attaques à Bamako, dont la dernière terroriste a été le 21 mars 2016. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Présidentiel au Gabon, le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama, a annoncé sa candidature. D'après l'AFP, il a annoncé sa décision de se mettre à l'écart du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Il faut dire qu'il se présente face au président Ali Bongo Ondimba, candidat à un deuxième mandat. L'élection est prévue au second semestre 2016. Nous y reviendrons en Parti Magazine.
Nouveau soupçon d'abus sexuels par des soldats de l'ONU. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant des militaires français basés en Centrafrique. C'est ce que rapporte l'AFP citant une source judiciaire. Les faits se seraient produits en 2013 et 2015 à Dekoua, dans l'est du pays. Pas de précision sur le nombre de victimes, leur âge ou le nombre de militaires impliqués. La semaine dernière, l'ONU a révélé avoir reçu des informations selon lesquelles les soldats français de Sangaré seraient forcés en 2014 des jeunes filles à avoir des rapports sexuels avec des animaux en échange d'une somme d'argent.
Le président sud-africain Jacob Zuma, discrédité par la décision de justice qu'il a reconnue coupable de violation de la Constitution, fait face au Parlement à une procédure de destitution déposée par l'opposition qu'il accuse d'être le cancer de la politique. Des détails avec Nani Talani.
Sauf coup de théâtre, le chef de l'État devrait survivre à ce vote. Il faudrait recueillir les voix des 2/3 des députés. Or, l'ANC, qui l'a soutenu dans cette tempête, dispose d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, les 11 juges de la Cour constitutionnelle ont décidé à l'unanimité que le président Jacob Zuma avait violé la loi en refusant de rembourser une partie des fonds publics utilisés pour rénover sa résidence privée, notamment une piscine, un centre pour visiteurs, un enclos pour le bétail et un poulailler. Dans la foulée, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a lancé une procédure de destitution du président. Pour ce parti, en violant la Constitution, Zuma a menacé la structure même de la démocratie sud-africaine. Cette formation politique a rappelé aux parlementaires de l'ANC leur serment de respecter et protéger la Constitution, serment qui les engage à servir le peuple sud-africain et pas Jacob Zuma. Mais ce message n'a aucune chance d'être entendu dans les rangs de l'ANC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Arabie Saoudite, le colonel Khattab Majeb al-Ahmadi, un officier du département des investigations criminelles, a été tué par des tirs d'inconnus près de Riyad. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur. Une attaque aussitôt revendiquée par le groupe djihadiste État islamique, très actif dans le royaume.
Les électeurs du Wisconsin ont commencé à voter mardi matin pour les primaires républicaines et démocrates à la présidentielle américaine. Des consultations où, pour une fois, Donald Trump et Hillary Clinton ne partent pas favoris. Chez les républicains, le sénateur ultra-conservateur du Texas, Ted Cruz, dévançait ces derniers jours Donald Trump, les sondages lui donnant environ 40% des intentions de vote contre 35% pour le milliardaire. Du côté des démocrates, Hillary Clinton semblait quant à elle, avoir abandonné tout espoir de gagner le Wisconsin, préférant se focaliser sur New York.
Le pape François a exprimé le souhait de se rendre auprès des réfugiés sur une île grecque pour leur manifester sa solidarité, a indiqué ce mardi le Saint-Synode de l'Église de Grèce, précisant avoir donné son feu vert à une visite pontificale à Lesbos. Cette visite pourrait intervenir le 15 avril.
En France, des violences ont entaché ce mardi de nouvelles manifestations de lycéens et d'étudiants opposés à un projet de réforme du droit du travail qui cristallise le mécontentement à l'égard du président François Hollande. À Paris, des policiers ont chargé en fin de matinée une cinquantaine de jeunes et procédé à près de 130 interpellations.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
3200 fonctionnaires et agents publics au Cameroun n'ont pas encore reçu leur salaire du mois de mars, rapporte l'APA, citant le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative comme étant à l'origine de la demande d'interruption de paye. Selon le ministère, ces personnels ne sont rattachés à aucune administration. Au départ, ils étaient 10 000 invités à clarifier leur situation, faute de quoi leur salaire serait suspendu. Certains fonctionnaires et agents de l'État disent ne pas avoir été au courant de la situation. La 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique suit son cours à Abidjan. Ce mardi, les travaux ont porté notamment sur la présentation des priorités 2016-2017 à la réunion des experts qui prendra fin demain. L'organisation compte améliorer la mise en œuvre au niveau des pays du défi fin zéro à l'horizon 2025, de la gestion intégrée des paysages agricoles et du renforcement de la résilience dans les zones arides. Poursuite de la semaine du développement africain à Addis Abeba, durant laquelle notamment l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, qui est la présidente du conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, a appelé tous les pays africains à investir massivement dans les programmes de vaccination, car, a-t-elle conseillé, cela revient moins cher de prévenir que de guérir.
La Minute Éco, merci Nathalie.
Une musique qui ne trompe pas, c'est l'heure du sport. Tatiana Mosso est dans ce studio. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir John.
On commence par cette nouvelle qui fait l'effet d'une bombe dans la sphère du football congolais.
Exactement. Dieu merci. Mbokani Mbezwa annonce qu'il ne jouera plus pour la RDC, présent à l'aéroport de Zaventem le jour des attentats de Bruxelles, d'où il devait rejoindre l'équipe nationale. Il n'a pas pris part au match contre l'Angola les 26 et 27 et 29 mars. Bien qu'attendu, il n'avait jamais rejoint Kinshasa. Le président Constant Omari avait promis des sanctions à l'encontre de l'attaquant de Norwich. Dans une interview exclusive accordée à Top Congo FM, notre partenaire, Mbokani regrette ses propos du président et décide d'arrêter la sélection.
Et il y a des matchs cette semaine du côté européen.
Effectivement, le PSG joue un quart de finale de la Ligue des Champions à sa portée, mercredi, face à Manchester City, nouveau riche comme lui aux mains d'investisseurs du golf, qui rêve aussi d'atteindre pour la première fois le dernier carré. Et l'autre quart de finale, aller, opposera le Wolfsburg et le Real Madrid.
L'athlétisme russe, actuellement interdit de participation au JO de Rio en août, est à nouveau pointé du doigt.
Exactement, et les sanctions continuent cette fois. C'est Tatiana Lysenko qui est dans le viseur. La championne olympique 2012 du lancer de marteau est provisoirement suspendue pour dopage, a indiqué la Fédération internationale d'athlétisme, sans spécifier la nature du produit en cause ni la date du contrôle positif. Lysenko aurait été contrôlée positive à l'issue de réanalyses pratiquées sur des échantillons prélevés en 2005 lors des mondiaux d'athlétisme d'Helsinki.
Et on parle aussi de l'athlétisme au Kenya. Kenya.
Et oui, le Kenya. Au Kenya, le ministère des Sports et le Comité olympique se sont dit optimistes sur l'obtention d'un nouveau délai pour mettre sur pied une législation antidopage robuste et éviter une éventuelle interdiction de participer aux JO de Rio. L'Agence mondiale de dopage, l'AMA, avait donné au Kenya jusqu'au 5 avril pour adopter une nouvelle législation et financer une agence antidopage, alors que le pays avait échoué à se conformer à une première date butoir mi-février.
Merci Tatiana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Guiriec et John Lyndon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, la République du Congo.
Les quartiers sud de la capitale ont été quadrillés par un important dispositif militaire. Hier, des hommes armés ont attaqué des bâtiments publics. Officiellement, 3 policiers et 2 assaillants ont été tués. Les autorités accusent les miliciens ninja Tsilulu. Alors, quelle est l'atmosphère aujourd'hui à Brazzaville? Idriss Fall a joint Ngolan Goussou, notre correspondant sur place.
L'atmosphère est calme à Brazzaville, mais quelques tensions quand même dans la partie sud où on peut encore observer des personnes, les femmes et les enfants notamment, qui quittent les maisons, qui se mettent sur les chemins dans les deux sens, c'est-à-dire pour s'enfoncer dans les quartiers sud ou bien pour aller dans les zones centre et nord de Brazzaville où c'est plus sécurisé. Mais globalement, il n'y a pas eu donc de coups de feu depuis la nuit et ce matin.
Est-ce qu'on a une idée de bilan de ces attaques?
Officiellement, on parle de 3 policiers qui ont été tués et 2 assaillants. Voilà ce que l'on sait. Vu que les affrontements ont eu lieu dans la nuit, les populations qui fouillaient ont témoigné avoir vu quelques corps, le corps d'un policier à Mafuta, donc dans la partie sud. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le bilan. En dehors du bilan matériel que l'on sait que les commissariats des polices, la plupart ont été incendiés et puis les 2 sièges des arrondissements de Brazzaville. Mais je voulais également ajouter que ce matin, l'un des sites du révérend Pasteur Ntumi, qui est aujourd'hui soupçonné d'avoir mis les jeunes armés dans la lutte pour combattre la police, même s'il s'est défendu sur nos antennes hier. Donc le Pasteur Ntumi, son site de Sumuna, sur la route de Kinkala, a été attaqué ce matin. L'un de ses porte-parole confirme qu'il n'y a pas eu de victimes sur le site qui a été bombardé par hélicoptère. On apprend également qu'un autre site à Mayama, plus à l'ouest de Brazzaville, a été également bombardé, mais on n'a aucun bilan sur ce deuxième site où habitait le pasteur Ntumi lui-même.
Et on nous signale que la Cour constitutionnelle a aussi validé hier la réélection de Denis Sassou Nguesso.
Tout à fait. Dans cette foulée-là, la Cour constitutionnelle a publié les résultats, a validé donc la réélection du président Sassou Nguesso, 61,9%. Très peu de Congolais ont pu suivre, vu que la piscose était sur Brazzaville, mais il y en a qui ont suivi. Sauf qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de scènes de joie et de liesse dans la ville hier soir. Et peut-être que le week-end, le parti au pouvoir pourra récupérer cette victoire pour fêter comme il se doit.
Ngolan Goussou, notre correspondant à Brazzaville.
Cap à présent sur la République démocratique du Congo. Les habitants de Lubumbashi, dans le Katanga, s'inquiètent de l'arrivée de militaires et de chars de combat dans leur ville depuis la fin de la semaine dernière. Ils sont sans information de la part des autorités. Reportage sur place de Narval Mabila.
Depuis vendredi 1er avril, Lubumbashi connaît un mouvement inhabituel de transport de chars, de combat, matériel militaire, les hommes des troupes, de la guerre de la SNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo, du camp major Vangu. Une situation qui n'a pas d'explication de la part des officiels, alors que la peur s'installe et l'inquiétude, et chaque louchoir l'explique à sa manière.
Je vis à Lubumbashi, je les ai vus moi-même, de chars de combat avec des militaires qui régulaient la circulation à leur manière, pour faire passer les chars de combat là. C'est du terrorisme. Nous traumatiser avec ces chars là.
Même les gens des troupes, hein, ils sont là-bas, je ne sais pas si c'est STVD, Ils viennent de quelque part, c'est à Kisangani ou Bounia. Mais pourquoi ça? Et on ne sait pas ce qui nous attend dans l'avenir.
Ces équipements, ce ne sont pas contre la population. Par contre, c'est pour défendre la population. Donc, on est en train maintenant de songer aussi à l'armée. Là, nous encourageons l'œuvre du gouvernement. Quand on songe à l'armée, c'est pour faire face à d'autres pays agresseurs, notamment les Rwandais, l'Ouganda, les Burundi, nos voisins qui nous entourent, qui nous agressent souvent.
Les ONG de droits de l'homme ne sont pas du reste. Une lettre ouverte vient d'être adressée au ministre de la Défense nationale congolaise afin de fournir une explication pour rassurer les habitants, mais aussi les investisseurs. Maître Timothée Mbouya de l'ONG Justicia SBL.
Vers la fin de la semaine passée, vendredi donc, des véhicules blindés, donc des chars de combat, sont arrivés à Lubumbashi avec des caisses de munitions et des hommes, des commandos sont donc arrivés à Lubumbashi. Il s'agit d'un mouvement des militaires qui ne peut que inquiéter des populations civiles. Les dispositifs militaires tels que nous le voyons aujourd'hui laissent penser qu'il y a de fortes manœuvres militaires dans la région et donc mon organisation n'a fait que transmettre auprès de la hiérarchie les inquiétudes de la population en demandant au ministre chargé de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, de donner une explication, de dire à la population ce qui se passe.
Face au silence des autorités politico-militaires de la ville, nous avons joint le commissaire spécial Félicien Katanga, lui qui nous parle d'une opération tout à fait normale de déchargement et d'équipement de la 22e région militaire de FARDC.
La brigade Yo Katanga a été ravitaillée, équipée par le pouvoir central. Cet équipement est venu par voie de chemin de fer. Et alors, ici à Lubumbashi, il s'agit tout simplement de les décharger des wagons de la SNCC et de les amener au camp militaire Vangou.
Lubumbashi, Narval Mabila pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga. Et toujours au sujet de la République démocratique du Congo, l'ONU a prorogé fin mars le mandat de sa mission en RDC, la MONUSCO, pour un an. En outre, le Conseil de sécurité qui est passé outre la proposition du secrétaire général Ban Ki-moon d'une modeste réduction de 1700 soldats de cette mission, a appelé les autorités congolaises à organiser dans les délais des élections libres et crédibles. Pour une analyse de ces prises d'opposition onusiennes, Timothée Donangmaï a joint ici à Washington l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines.
Le Conseil de sécurité ne doit pas parler des élections, mais ils ont dit qu'il faut absolument faire des élections selon la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut avoir une élection présidentielle en novembre 2016. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'élection, comme nous avons peur maintenant qu'il n'y aura pas d'élection, les Nations Unies peuvent faire des sanctions contre le gouvernement de Kabila. Deuxièmement, comme vous venez de dire, ils ont refusé de réduire le nombre de casques bleus qui sont là pour protéger les gens dans le civil. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'élection, s'il y a toujours le glissement, il y a un danger de violence. Donc, il faut que les soldats des casques bleus restent là pour protéger les gens qui manifestent. Un troisième message, il y a un danger que s'il y a de violence, il y aura des réfugiés qui vont partir pour des autres pays, surtout l'Angola. Et les autres pays dans la région ont peur. Donc, ils ont encouragé le Conseil de sécurité de faire cette résolution. Donc, je dis à votre audience que c'est une résolution très importante. Ce n'est pas banal.
Sur quoi sont fondées les craintes que vous venez d'évoquer?
Vous vous rappelez peut-être quand président Kabila, en 2014, a annoncé qu'il y aura un référendum pour changer la Constitution. Mais ça a déclenché beaucoup de manifestations partout dans le pays. Il y avait des morts parce que la police et les soldats ont tiré sur les gens. Et président Kabila a décidé de ne pas faire un référendum pour changer la Constitution. Donc, ça montre qu'il y a des sentiments très importants, que les gens veulent que la Constitution soit faite, c'est-à-dire qu'il y aura des élections.
L'opposition de la RDC redoute que le président Kabila se maintienne au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. Mais à ce jour, le président Kabila n'a pas dit qu'il sera candidat à la présidentielle.
La date limite, je crois que c'est le 20 décembre, quand son deuxième mandat est terminé. Il peut toujours dire, bon, mon mandat est terminé, et le président en exercice sera le président du Sénat. C'est toujours possible. Bien sûr, il n'a rien fait contre la Constitution jusqu'à maintenant, mais il faut préparer des élections. Et je crois qu'ils n'ont pas encore commencé à préparer. Et le président de la Commission sur les élections venait de dire récemment que ça va prendre un minimum de 15 mois. Nous sommes déjà en avril et 15 mois d'ici, c'est en 2017. Donc, tout le monde croit que c'est une raison d'avoir peur. Il y aura un grand délai et que la vraie raison pour le délai, c'est que M. Kabila ne veut pas quitter la présidence.
L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Guy Nzouba Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, poste dont il a démissionné la semaine dernière, a annoncé mardi à Libreville son intention de se présenter à la présidentielle prévue en août prochain. Les détails avec notre correspondant à Libreville, Jean-Revy Dabani.
Devant plusieurs centaines de sympathisants, Guy Nzouba Ndama est arrivé pile à l'heure. Vêtu d'un costume bleu marine, cravate rouge, Guy Nzouba Ndama a été accueilli en héros dans ses résidences privées situées dans le quartier nord de Libreville, où il s'était donné rendez-vous. Opposants, universitaires, société civile, ancien premier ministre Omar Bongo était venu écouter la déclaration que tout le monde attendait. Après un discours très critique envers l'actuel chef de l'État, Ali Bongo, Guy Nzouba Ndama a dit quitter le Parti démocratique gabonais auquel il a appartenu avant de se porter candidat.
Je présente ici ma mise à l'écart du cadre réglementaire et statutaire du Parti démocratique gabonais. Cette décision est assortie d'une autre, la déclaration solennelle de ma candidature à l'élection présidentielle d'août 2016.
Figure politique bien connue au Gabon, président de l'Assemblée nationale depuis 20 ans, Nzouba Ndama veut se poser en rassembleur.
En prenant cette décision, je ne veux être ni un héros, ni un martyr. Je veux être moi-même, Guy Nzouba Ndama.
Le parlementaire a longtemps fait mystère de son intention de se présenter à la présidentielle de cette année, une discrétion qui prend aujourd'hui tout son sens.
Dès l'instant, j'appelle les Gabonaises et les Gabonais de l'Estuaire, du Haut-Ogoué, du Moyen-Ogoué, de l'Angounier, de la Nyanga, de l'Ogoué-Ivindo, de l'Ogoué-Lolo, de l'Ogoué-Maritime et du Wellington à se lever comme un seul homme pour répondre à l'appel que je lance ce jour en vue de sauver le Gabon.
Le courant fondeur au sein du parti au pouvoir dont il est l'instigateur réunit désormais tous les élus démissionnaires qui sont venus grossir ses rangs. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
c'est la fin de cette édition. Joselle Morissin a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Souleymane Karawale. À la présentation, Morgan Guiriec et John Lindon.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.